dans un milieu structuré dans lequel ils se retrouvent, parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est que les classes institutionnelles sont tout à fait structurées et qu'elles permettent à l'enfant à tout moment de savoir où il est, d'où il vient, où il va, et tout cela, c'est lui qui le prend en charge. Alors au début, avec l'aide de l'instituteur ou de l'institutrice, qui petit à petit se recule et lui laisse son autonomie et ses responsabilités. Et grâce à cela, il peut exister et prendre son métier d'écolier en charge. Bon, évidemment, par la suite, il est arrivé dans un collège où ce n'est pas structuré de la même façon, et pour lui, c'était beaucoup plus compliqué.
Patrick, vous aussi, vous avez comme ça un petit miracle, une belle histoire.
Une belle histoire, oui. C'est l'histoire d'une Christine qui est arrivée dans la classe et qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui tout de suite d'emblée, pendant une année, à chaque semaine, présentait un texte au moment du choix de texte. Et c'était toujours des histoires de maladies, de morts, de visions, quelquefois d'au-delà. Bon. Et un jour, elle présente un texte où elle déclare quitter le ciel, quitter les nuages et revenir sur terre. Bon, ce texte m'a tout de suite un petit peu interrogé, parce que je la voyais toujours un peu dans les nuages, bien au contraire. Et donc son texte a été lu. Et le lendemain, autour de l'imprimerie, nous imprimions son texte. Donc, elle s'est mise à me demander si je savais pourquoi elle portait le nom et le prénom qu'elle avait. Je lui ai dit non, et elle m'a déclaré, en présence des enfants qui étaient là aussi, qu'elle portait le nom d'une tante morte peu de temps avant sa naissance. On a tous, moi et les enfants qui étions là, parlé, répondu, dit quelque chose, et très vite, en gros en lui redonnant un petit peu, en lui restituant son existence à elle, qu'elle n'était pas chargée de faire vivre une morte, mais de vivre sa vie à elle, et très vite, dans les quelques mois qui ont suivi, elle a appris à lire, elle a pris beaucoup d'importance dans la classe, elle est devenue responsable numéro 2 de la classe. Enfin, c'est vraiment aussi une histoire d'évolution spectaculaire.
Fernand. Oh, les bons maîtres. Oh, moi aussi je suis un bon maître, j'en ai publié plusieurs
douzaines.
Oh, les bons maîtres, comme tout cela est simple. Il suffit d'avoir des Patrice,
des Catherine,
des Philippe, et des tout, voilà. Et alors nous avons l'explication qui vous, à la nullité, tout effort, c'est pas la peine, il suffit d'avoir des bons maîtres. Vous pouvez remarquer qu'ils sont sélectionnés ici, puisque ce sont des maîtres spécialisés, nous sommes tous, j'ai été pendant 12 ans, maîtres de l'enseignement spécialisé. Voilà, et on arrête là. Alors quand même, on pourrait remarquer que ça se passe pas n'importe où, que chez Catherine, il y avait des métiers, qu'il y avait un conseil, qu'il y avait, pour avoir le conseil, il y avait une causette le matin, un coin de neuf, que chez lui, il y avait les mêmes choses, plus l'imprimerie, plus que chez lui, il y avait... Et alors, ça ne se passe pas n'importe où, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Ça se passe pas n'importe où.
Absolument.
C'est pas le hasard.
Philippe, je crois aussi que vous aviez envie de réagir.
Par rapport
à tout ce qui vient d'être dit, à ces belles histoires.
Eh bien, sans doute, oui, parce que on peut constater quand même que le mouvement de la pédagogie institutionnelle ne diffuse pas comme on voudrait tous qu'il diffuse auprès des enseignants.
Parce qu'il y a combien d'enseignants, à peu près, qui se réfèrent à la pédagogie, qui se réclament de la pédagogie institutionnelle?
Plus qu'on croit et moins qu'on pense. Nous n'en savons absolument rien. C'est comme Freinet disait, c'est comme la piscine, les techniques Freinet. Il y a les gens qui sont dans le grand bain et l'autre dans le petit bain. Et on n'en sait rien. Et maintenant, des tas de gens peuvent se référer à la il n'y a pas de label. C'est un mouvement qui n'est pas illégal, mais qui est allégal. C'est-à-dire que nous travaillons le dimanche, pendant les vacances, hors de... à nos moments perdus, comme on dit.
Mais moins qu'on voudrait. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi ce mouvement qui existe depuis quand même un bon moment n'a pas répandu, diffusé autant qu'on pourrait le penser.
Ah oui, c'est une vaste question qui dépasse sans doute les mouvements qui se réfèrent à la pédagogie institutionnelle, qui touche, je crois, tout mouvement pédagogique. Mais il faut peut-être aller voir du côté des habitudes des enseignants.
Mais changer aussi l'école, changer le monde, changer tout, sauf nos habitudes. Je crois que c'est une des clés importantes, c'est que faut être un petit peu dérangé pour se lancer dans une aventure où on travaille plus agréablement, plus intelligemment, tout ce qu'on voudra, mais où on travaille plus, et finalement où on en gagne moins, parce que nos stages d'été, c'est nous qui nous les payons, les frais de déplacement, c'est toujours pour nous, c'est des gens, on avait dit Freinet, c'est une bande de fous, mais heureusement, il reste quelques fous pour faire, pour changer les choses.
Oui, je crois en tous les cas qu'on peut constater que les outils mis au point par Fernand Houry, les silex que vous avez taillés, l'ont été dans les classes spéciales et à l'école primaire. Et qu'il y a sans doute une nécessaire adaptation de toutes ces pratiques pour d'autres publics, à d'autres lieux.
Oui, parce qu'un conseil de classe, on le voit mal dans une... On voit mal un professeur de français en seconde dans un lycée... faire la même chose.
On le voit peut-être mal, mais on le voit. Les pratiques comme le journal scolaire, la correspondance, le voyage-échange, le conseil, en effet, se pratiquent dans le secondaire. Des mouvements pédagogiques qui se réfèrent tout à fait à la pédagogie institutionnelle, un mouvement comme le CEPI, le collectif des équipes de pédagogie institutionnelle, travaillent à l'adaptation de ces outils dans le secondaire. D'autres, comme la RESPI, travaillent dans le champ de l'éducation surveillée. En effet, avec des éducateurs de rue, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça se pratique actuellement et bon.
Alors, on disait, Fernand Houry nous rappelait qu'il y a ce risque de perdre ses bonnes habitudes. Vous aviez employé, quand on en avait parlé ensemble, un autre mot, vous parliez d'un risque d'être ébranlé. Bon, on voit ici des enseignants, on a parlé de psychanalyse, on voit des enseignants qui interprètent ce qui se passe sur la porte, ce qui se passe sur différentes choses, un risque d'être ébranlé en soi-même.
Oui, c'est vrai que je pense que la pédagogie institutionnelle, c'est pas quelque chose de fermé. On n'est pas dans la pédagogie institutionnelle, on n'est pas dans des certitudes. Ça se travaille dans les groupes, on lit des livres et puis on participe à des réunions à l'extérieur. Ce n'est pas du tout un champ clos. Et donc, quelque part, en effet, on n'est pas forcément très rassuré. C'est pas très rassurant. Alors, peut-être, oui, à voir de ce côté-là.
Oui, Catherine.
Oui, quand vous dites on interprète, je dirais qu'effectivement dans le livre, dans les livres, on peut trouver effectivement un certain nombre d'hypothèses par rapport à ce qui s'est passé dans la classe, mais qu'avec les enfants, on ne donne pas d'interprétation. Oui. On travaille, on apprend à lire, écrire et compter. On est tout à fait à l'écoute de ce qui se passe, mais on ne leur donne pas d'interprétation, ça n'est pas notre travail. On tient compte de ce qui se passe là.
Oui.
On pourrait même dire que la pédagogie institutionnelle, c'est justement pour éviter cette situation de psychothérapeute scolaire qui est absolument invivable, parce que le métier d'instituteur ne va pas avec le métier d'analyste. Ça, c'est pour la part de directivité qu'il peut y avoir. C'est pour éviter la psychanalyse à l'école que nous faisons entrer, sur le plan de la théorie, l'inconscient dans la classe.
Mais cela veut dire que vous vous retrouvez ensuite l'été pour travailler en groupe, c'est-à-dire que vous reconstituez entre vous ce que peut-être les avantages que les enfants peuvent trouver à ces institutions.
Oui, mais les stages d'été ne sont pas la classe. On ne joue pas pendant le stage d'été, on ne joue pas la classe. On est entre adultes et c'est la pédagogie institutionnelle qui nous réunit.
Dans le secondaire, maintenant... Nous faisons des stages dans le primaire depuis 1957. Alors voilà ce qu'on peut dire que c'est un stage en internat, un stage intensif, où on se fatigue beaucoup. Et la première année, apprentissage des techniques. La deuxième année, utilisation de ces techniques pour les acquisitions scolaires. Et la troisième année, des histoires avec ce qui se passe dans les groupes et ce qui se passe avec des monographies. Mais là, il y a la vie dans le stage qui est une vie de pédagogie institutionnelle avec les lois. On joue peut-être, mais...
C'est le lieu de décision.
Le lieu de décision. Enfin, c'est une classe institutionnelle. Bon, mais chacun fait comme il l'entend.
Il nous reste très très peu de temps, mais simplement, donc je voulais juste effectivement qu'on parle bien du fait que vous vous retrouviez... que vous vous donniez à vous-même les mêmes moyens que vous donnez aux enfants, Et puis, je voudrais revenir, Philippe Jubin, sur votre livre « L'élève tête à claque ». Vous dites dans ce livre que, à l'isolement, vous parlez de l'isolement du maître, vous parlez de la fuite, vous parlez des regards, vous parlez de cet amour-haine difficile entre le maître et l'élève que révèle la tentation du passage à l'acte et la claque. Alors, l'avantage en un mot de la pédagogie institutionnelle par rapport à cette situation ?
Eh bien, c'est peut-être d'éviter ce face-à-face destructeur entre l'élève et le maître.
Bien, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler dans 10 minutes au 42 30 36 72 ou au 42 30 38 83. C'était Espace Éducation, Bruno Gagnère à la prise de son, Brigitte Rioux à la réalisation, une série proposée par Pascal Bouchard.